Soin de votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer por eso?
Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo.
El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain.
Au bord des corps.
Bonjour les auditeurices. Voici comme promis la deuxième partie de ce crossover sur la santé mentale avec Juliette de Lesbienne à l'antenne et Claire Selma de Quelques raisons de ne pas disparaître. On continue notre conversation sur la santé mentale et le rapport aux proches, aux autres, sur le rapport aux institutions psychiatriques également, et on y parle aussi un peu de pratiques artistiques. Je vous laisse découvrir cet échange. Je mets quelques trigger warnings sur des mentions d'agression sexuelle, trigger warning, mention de tentative de suicide d'un proche, et sur le rapport au pouvoir psychiatrique de manière générale. Assurez-vous d'être dans de bonnes conditions pour écouter tout ce podcast. Bonne écoute.
Et je voulais aussi vous demander s'il y avait des différences d'écoute et de manière de prendre soin les uns des autres que vous aviez selon vos différents cercles, que ça soit, est-ce que c'est différent quand vous êtes avec vos amis, avec vos collègues, avec vos partenaires ou votre famille. Est-ce que, par exemple, là, on a parlé d'amitié, mais ces dispositifs qu'on essaye de mettre en place, d'écoute dans l'amitié, c'est des choses que vous avez aussi dans les autres cercles de votre vie? Ou est-ce que c'est complètement absent et juste, pareil, vous faites la technique du sous-marin en tout lieu, tout moment?
Moi, là-dessus, je pense que j'ai pas mal évolué. J'étais très sous-marin dans ma famille et jusqu'à un point de rupture en fait. Et maintenant, je le suis beaucoup moins et ça se passe beaucoup mieux. Ça a vraiment aussi permis de débloquer certains nœuds. Et en termes d'écoute, je pense que pendant longtemps, j'ai pas demandé la même écoute de mon partenaire et de mes amis. Je me suis beaucoup reposée sur mon partenaire. Et que... trop. Dans une dimension un peu... un peu totalisante, quoi. Où c'était quasiment la seule personne à qui j'en parlais. Et c'était hyper lourd. Enfin, là, je projette, moi, ça allait, mais... Et en fait, c'était hyper foireux. Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à le déconstruire et justement me rappeler qu'en fait, j'ai des amis qui sont là pour moi et qui peuvent être des soutiens. J'ai mes sœurs qui sont un incroyable soutien et à qui j'ai pu parler et dont une sœur qui est médecin et donc du coup qui a pu m'expliquer des trucs sur les médicaments, trucs que je comprenais pas. Mais ça, j'ai mis vraiment longtemps. À déconstruire l'écoute que via le couple. Moi, je pensais que ça suffisait, quoi. Genre, j'en parle à une personne, donc c'est bon. Et en fait, non, parce que du coup, cette personne, elle reçoit beaucoup trop. De une, et de deux, comme on le disait sur les soutiens, en fait, t'as besoin de soutien de plus de une personne. T'as besoin de... Déjà, parce que cette personne, elle peut, un, ne pas être dispo, deux, parfois, faire de la merde. Et en fait, t'as besoin d'autres gens, quoi. T'as besoin d'un collectif. Quitte à ce que ce soit en étoile, hein. C'est pas un collectif en mode les gens se connaissent entre eux, mais un collectif, c'est-à-dire plusieurs personnes qui peuvent t'écouter et te soutenir. Et ouais, moi j'ai mis super longtemps et je pense que j'y suis pas encore arrivée du tout, quoi. Ouais. Voilà.
La question est excellente. Je trouve ça trop intéressant de, du coup, comment répartir les appuis. Et moi, c'est un truc, comme j'ai beaucoup été seul soutien de personne, du coup, je sais bien que c'est pas une bonne idée. Et en même temps, comme je vis avec mon amoureuse, de fait, elle est là quand je me réveille en train de pleurer, donc de fait, il y a des trucs où, voilà, c'est, en tout cas, la charge émotionnelle, c'est pas forcément la parole, mais c'est aussi la présence de l'autre qui est agité ou qui dort pas, ou qui, voilà. Mais c'est clair que le fait d'avoir plusieurs amis, et moi je trouve que si possible, le fait que ces personnes puissent se parler entre elles, ça leur donne soutien aussi à elles, quand c'est vraiment la crise, ou je sais pas, ça leur permet de aussi analyser peut-être, ou en tout cas pas rester seule avec un espèce de secret, on ne saurait pas trop quoi faire. Dans ma famille, comme du coup mon frère, il est vraiment dans un état de souffrance plus depuis plusieurs années, il n'y a pas vraiment de place pour les souffrances des autres. Et après, j'ai, en fait, mes amis, ils sont pas ici, donc ça retombe beaucoup sur mon amoureuse, donc j'essaye aussi de créer des solidarités affectives et matérielles avec des gens qui seraient ici, parce que le quotidien, c'est important, il n'y a pas que un week-end tous les trois mois qui, ça suffit pas, quoi. Voilà. Mais ça prend du temps, en fait, pour faire confiance, pour se parler. Mais c'est clair que je le sens comme une espèce de clé. Enfin, en tout cas, que moi, je sens que les moments où je suis bien dans ma vie, c'est parce que je sais, à qui je suis liée, comment, combien c'est solide, et que je sais où je marche, quoi. Enfin, que, en fait, la solidité de mes relations affectives, c'est ce qui me donne la solidité face et ou avec les troubles, en fait. C'est vraiment mon meilleur remède, quoi.
Oui, bah, pareil. Moi, au début, je pense que au début de ma relation actuelle avec mon partenaire, on était très tous les deux à se confier beaucoup de choses. Et après, je me suis rappelée de l'importance de mes autres proches et que maintenant, c'est plutôt équilibré. Alors, la famille, j'y recours pas pour parler de ma santé mentale. C'est très rare, très anecdotique. Mais effectivement. Soit mes groupes de pères, PAIRES militants, et sinon c'est beaucoup j'ai 5-6 amis proches, et ça tourne, et je sais qu'on parle les uns une des autres effectivement aussi de ce qui arrive dans la vie des uns une des autres, et que ça permet effectivement ce truc en étoile dont tu parlais, Claire, et ouais, c'est aussi ouais, c'est, je pense, le meilleur des remèdes, pour reprendre la phrase d'Icarus, l'amitié. Voilà. Et j'avais une dernière question par rapport à tout ça. C'était: quelle place le pardon prend-il vis-à-vis des personnes qui appuient sur vos vulnérabilités? Vaste question encore.
Alors moi, j'ai tout un truc avec le pardon, parce que j'ai une espèce de rejet de, c'est un truc chrétien, et du coup, on n'a plus besoin d'assumer ses responsabilités. Et en même temps, je vois bien que militer et travailler sur soi-même ne suffit pas à être une bonne personne. Et qu'on peut tous faire des conneries, faire du mal aux autres. Peut-être le pardon, c'est justement que chacun prenne ses responsabilités et travaille ensemble à comment on va de l'avant. Là, je suis dans une grosse phase de... Est-ce que je vais me réconcilier avec mon père? Ta-da-da. Suite au prochain épisode. Voilà. Et pendant longtemps, je me suis dit... en fait, je me disais, mais c'est un truc un peu... Je me disais, peut-être si je le vois plus, je peux pas devenir comme lui. Parce que c'était ça ma parano, c'est j'ai peur de devenir comme lui. Donc, s'il est plus dans ma vie, j'ai moins de risques de devenir comme lui. Mais je me rends compte que du coup, c'est rejeter une partie de moi-même qui est déjà là. Parce que en fait, j'ai passé 15 ans de ma vie à habiter avec lui. Donc, je veux dire, l'influence est déjà significative. Et que peut-être c'est au contraire en me réconciliant avec ces parties-là de moi-même que justement je peux choisir qu'est-ce que j'en garde, qu'est-ce que j'en garde pas. Mais c'est un petit travail qui demande un peu d'espace mental, de temps, de disponibilité. Voilà. Et j'en suis là sur le pardon.
Franchement, c'est une question que je trouvais hyper dure. moi, je tiens un rapport assez compliqué à la notion de pardon. D'une manière générale, je pardonne pas grand chose. Je suis un peu intransigeant. Mais, ceci étant dit, je pense qu'en fait, il faut être clair sur ce qu'on décide de pardonner. Moi, il y a des choses que je ne vais pas pardonner. Ça ne va pas m'empêcher de relancer une relation avec cette personne. Mais ce point-là, il sera jamais pardonné, en fait. Et du coup, je ne referai jamais confiance à cette personne. Par contre, je peux avoir des relations avec cette personne et on peut renouer quelque chose qui sera différent, qui sera pas la même chose que ce qu'on a eu précédemment. Et pour moi, il y a vraiment des choses différentes entre l'erreur et l'injure, quoi. Il peut y avoir des erreurs. Combien on fait de boulettes, nous, dans nos vies. Enfin, moi, je dis des trucs, après, je me dis... Et en fait, après, je vais m'excuser platement à dire, bon, en fait, j'ai vu que je t'avais blessé. Je suis désolée, j'ai fait de la merde. Je vais réfléchir à la question. Enfin, ça, je pense, c'est hyper sain d'avancer via les erreurs. Et je pense que c'est sain aussi de faire remarquer aux autres, quand on est dans un contexte, leurs erreurs, à dire, bah, t'as dit ça, mais en fait, moyen, enfin, non. Et après, il y a l'injure. Moi, je pardonne pas l'injure. Moi, le fait de qu'on manque de respect à mon intégrité, volontairement. Donc, c'est pour ça que ça dépend ce qu'on entend par, comme tu disais, les personnes qui appuient sur nos vulnérabilités. Peut-être, faut voir ce qu'on entend par là. Mais ouais, non, moi, l'injure, c'est... Jamais, jamais le pardon. Et c'est peut-être une erreur parce que t'as raison Juliette, il y a ce truc de... Ensuite tu te définis en négatif, tu te définis par rapport à cette personne qui t'a offensé. Et c'est sans doute pas un process apaisant quoi. Mais je sais pas, moi je fais cette distinction-là dans ma tête. Peut-être peut-être qu'elle est fausse hein, parce que... C'est plus flou que ça dans la réalité. Mais en tout cas, voilà. Moi, je me dis ça et je me dis que les erreurs, bien sûr, je les pardonne. Et, enfin, bien sûr, c'est un long processus difficile, mais je pense qu'on peut y arriver. Mais, ouais, par contre, je sais pas. En fait, Eclo, qu'est-ce que t'entendais exactement par cette question?
Bah, je pense que je pensais plus aux erreurs et tout parce que, ouais. Effectivement, les injures, j'ai peu de cas là qui me viennent en tête, ou alors ça remonte à très longtemps, de personnes qui m'ont vraiment injurié. Mais je pensais plus à effectivement les personnes qui n'ont pas tenu compte de nos limites ou qui ont passé, qui ont appuyé sur des choses qui font très écho à notre santé mentale, etc. et qui nous ont précipité dans des états de perplexité ou de souffrance ou des choses comme ça. Et comment revenir, même quand ça nous a fait mal, du coup, comment pardonner ces erreurs-là. Et moi, je sais qu'avant, j'étais très rancunier par le passé et que, en fait, j'ai perdu tellement de proches que j'ai vraiment changé, d'une manière très égoïste aussi, mon rapport à ça et que maintenant, j'ai pardonné à énormément de personnes, y compris même à mon père. Et que je suis beaucoup plus dans essayer de comprendre et pardonner parce que j'aimerais que les personnes me pardonnent et que je tiens plus aux personnes pour ce qu'elles sont que je ne tiens à ces moments de vie compliqués qui elles m'ont fait vivre. Donc ouais, voilà. Mais par contre, je trouve ça très intéressant ce que tu disais, Claire, sur le fait de renouer un autre type de relation, mais que la confiance n'était plus la même. Et du coup, je me disais, j'entends dans ce que tu dis que du coup, tu renoues des relations avec des personnes qui ont pu te faire du mal, mais que c'est des relations moins fortes, c'est ça? Ou est-ce que c'est... Enfin, la confiance, elle revient jamais de ton côté ou... une fois qu'on...
Ben, je pense que moi, dans le passé, j'ai beaucoup coupé. C'est-à-dire, ça ne va pas. Enfin, tu t'approches un peu trop près, tu m'as fait du mal. Ce que moi, je vais vivre comme une trahison, ce que l'autre ne va pas forcément vivre comme une trahison. Là, je coupe. Genre, c'est fini, c'est silence radio, plus d'adresse. et je me rends compte que c'est aussi lié à une sensibilité particulière de ma part, qui est liée à ce fait de... je mets longtemps à faire confiance, mais du coup, quand je fais confiance pleinement. Et du coup, au moindre signe de désertion, mais je roule libre. Voilà, et je coupe. Et je me suis dit que c'était pas hyper simple comme petite méthode voilà. Et du coup, j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, il pouvait y avoir une troisième voie, en fait, qu'on n'était pas obligé d'être soit dans le 100% confiance, soit dans le vague connaissance. On pouvait aussi être dans cette négociation progressive et qui finalement est plus saine parce que t'en attends moins des autres, tu donnes moins aussi de toi. Et en fait, progressivement, tu peux renouer la confiance. Mais tu te dis, ok, en fait, calmos, on va repartir de la base. Tu m'as énormément déçu sur cet aspect. Et ben, on va essayer de recréer quelque chose sans jamais que je vais pas oublier, je vais pas faire comme si ce moment n'était pas arrivé. Évidemment, il est arrivé, il m'a fait du mal. Mais du coup, on essaie de renouer quelque chose de différent et de peut-être moins intense, mais en fait, peut-être tant mieux. Peut-être qu'en fait, voilà, on va... Et peut-être qu'on va redevenir super proche comme on l'était avant. Peut-être pas. Peut-être on va juste se croiser de temps en temps dans des cercles d'amis communs qu'on a, et on dira bonjour et puis c'est tout. Et c'est pas grave. Mais voilà, c'était me dire... C'était un peu, ouais, une auto... Enfin, je sais pas comment dire. Me dire, ok, t'es pas obligé d'être dans le tout ou rien, quoi. Tu peux faire de la médiation et même tu dois, en fait, parce que sinon t'avances pas dans la vie. Si t'es comme ça, enfin 100% ou 0%, c'est pas très constructif, quoi.
C'est marrant parce que du coup, oui, je me reconnais là-dedans. Je vais pas oublier ce qui se passe parce que justement, je le considère aussi comme un faisceau d'indices pour pouvoir me protéger à l'avenir de ce qui pourrait se passer aussi avec cette autre personne. Mais par contre, je mets de l'eau dans mon vin par rapport à justement ce qu'on disait tout à l'heure de pas être sûr quand c'est soi qui, enfin, tu parles de ta sensibilité et quand c'est soi qui overreact, surréagit ou qui, enfin, je pars du principe que ma grille de lecture, elle est pas universelle et qu'aucune grille de lecture est universelle et du coup, bah, il y a des choses qui m'ont blessée mais à partir du moment où c'était pas intentionnel, je vais essayer de comprendre ce qui, dans la lecture de l'autre, a rendu ça possible. Et du coup, ça rejoint la question des doutes qu'on a face à notre propre fiabilité, en fait, aussi. Enfin, voilà, c'était juste un petit aparté. They make you not leave me deep, boy. Oh, holy father, yeah. Oh, make you drive on the star. Yeah, who can know that for you? Ben, du coup, on a parlé pas mal d'écoute, des proches. Et moi, une des questions que je me pose beaucoup, c'est comment soi-même mettre des limites dans ce qu'on demande. Parce que, comment dire? Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé, bah, par rapport à mon partenaire. Où, en fait, je pense que j'ai pas mis suffisamment de limites. C'est quelque chose que, bah, je souhaite à personne et que j'ai surtout pas envie de refaire avec mes amitiés. C'est une question qui me travaille un peu. C'est comment donner les clés, en fait, pour que... Enfin, moi, je vais très vite avoir l'impression d'en demander trop. Et peut-être c'est le cas, peut-être c'est pas le cas. Mais du coup, j'ai pas d'outils, quoi, pour savoir comment démêler ça. Et je me demandais si vous en aviez et comment vous fixez les limites dans ce que vous demandez aux proches, même si j'ai compris que finalement, vous étiez plutôt de l'autre côté, généralement, et que c'était plutôt tes proches qui vous demandaient des choses. Mais du coup, c'est intéressant aussi d'avoir
ces deux aspects, quoi.
Alors, je vais bien commencer. En fait, moi, je pense que je suis aux deux places, ça dépend des moments et que ça change. J'ai eu un partenaire qui m'avait... Enfin, je me rappelle d'un moment en particulier, donc qui me parle de ses pensées suicidaires plusieurs fois et où j'ai mis un énorme stop. J'ai dit, en fait, là, mon gars, tu vas voir un psy, moi, je peux plus écouter, en fait, je vais pas t'aider. Moi, ça me met mal, donc il faut que tu te prennes en charge. Enfin, genre un espèce de truc un peu sec. Après, je me rappelle aussi d'un ami qui plusieurs fois, des amis qui font des interventions, genre, en fait, là, t'es dans la merde, et moi, j'ai pas la réponse, donc il faut que quelque chose se passe, je ne peux plus t'aider. Et qu'en fait, souvent, c'était salutaire. Enfin, souvent, ça m'a forcé à, je sais pas, prendre des choses en main, je sais pas. Après, mais comment je fais pour fixer les limites pour pas trop peser? J'ai l'impression que finalement les institutions sont là pour ça. Enfin, en tout cas, que pour moi, en fait, ce qui fait que je vais voir des médecins, des psys ou je sais pas quoi, au shiatsu, ou je sais pas qui veut, c'est vraiment, en fait, là, je pèse trop, il faut répartir. Donc, et c'est le moment où je dois soit demander de l'aide d'ailleurs, ou soit payer pour avoir un service, parce qu'en fait, s'il y a des gens qui se payent, ça c'est une bonne raison, et peut-être que payer c'est bien, enfin, en tout cas quand c'est possible. Donc ça c'est un premier truc. Et après, souvent je me sens prise au piège par mes propres doutes sur comment je fais pour protéger l'autre, mais à force de vouloir le protéger, du coup je lui parle pas, mais du coup c'est encore pire parce que la personne elle comprend pas ce qui se passe. Et donc je me suis aussi souvent dit que, enfin c'est une discussion qu'on a. Donc je suis toujours en train de vérifier est-ce que c'est ok pour toi, nanana. Et finalement, à un moment, elle m'a dit, en fait, moi, je vais gérer, je vais poser les limites, et c'est ma responsabilité. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre comme tel et tout, mais je me suis dit aussi, c'est possible de faire confiance à l'autre pour dire stop ou pour dire... parce que parfois ça nous embrouille d'être aux deux places et que pour être aidé correctement on peut pas être aux deux places en même temps. Voilà. Je sais pas si ça aide beaucoup, mais c'est là où j'en suis sur le sujet. Et après c'est clair que dans l'idéal d'avoir des proches qui sont là au quotidien et où il y a une réciprocité. Enfin, après oui, une des premières limites, c'est la réciprocité, en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui fait que ça tient, que c'est solide, que ça crée pas des rapports de pouvoir, des trucs comme ça. C'est vraiment ce truc de réciprocité. Et après, bah, d'avoir des gens proches au quotidien, répartir le soutien, voilà, matériel et affectif, c'est un peu ça, mes pistes.
Oui, je fais un peu pareil que toi. Alors après, par contre, je renvoie pas vers les institutions, où moi-même, je me renvoie pas forcément vers les institutions parce que justement je vois d'abord l'aspect violent de la chose, mais quand je vois que j'ai aucune des solutions ou aucune de mon écoute active, enfin rien de mon écoute active ne suffit à alléger la personne et que moi-même j'y perds mon énergie, etc., je réoriente vers d'autres proches, d'autres amis. Et après, poser mes propres limites, c'est quelque chose qui reste compliqué, mais je travaille beaucoup là-dessus et j'apprends de plus en plus à pouvoir dire, bah là, j'ai besoin de rentrer chez moi, j'ai besoin de... Et dernièrement, mon partenaire me disait que j'y arrivais vraiment beaucoup mieux à l'exprimer, que j'avais jamais autant exprimé mes besoins de partir un peu loin de Bordeaux ou de me mettre un peu en retrait de certaines situations. Et en fait, ce qui me donne, justement dans cette idée de réciprocité, ce qui me donne confiance pour poser mes limites, c'est quand les autres me posent des limites. Et ça, c'est, je remercie vraiment mes proches qui préviennent à l'avance de « Ok, ça je pourrais, mais ça je pourrais pas, ça je pourrais, mais ça je pourrais pas. » Et en fait, ça me donne, moi, la légitimité de pouvoir dire à mon tour « Bah ça je pourrais, ça je pourrais pas », plutôt que de faire comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire... ne rien dire du tout et m'engager à corps perdu dans le soutien de l'autre au détriment de ma propre santé mentale et physique. Et voilà. mais ça reste un processus.
Ben, j'aime vraiment bien cette idée de, un, réciprocité, deux, de dire en fait on est deux à mettre les limites, mais tu mets tes propres limites comme toi tu le sais, et comme ça c'est, je trouve, beaucoup moins dépersonnalisant, c'est-à-dire que c'est pas à toi qui est aux deux places dans la conversation alors que t'es déjà à ta place, mais tu dis ben voilà, moi je suis à ma place, je voudrais aborder ça, est-ce que toi c'est ok? Et c'est vrai que ouais, c'est un des trucs que je trouve dur à mettre en place, mais important, quoi, de préparer, enfin, de pas être non plus trop dans le non mais vraiment si tu veux, enfin si tu veux, enfin non mais c'est pas, il y a pas de non mais enfin, et où en fait ça fait 5 minutes, personne ne s'est rien dit, l'autre personne se dit mais qu'est-ce qui se passe, je croyais qu'on allait juste parler, et ouais, je trouve ça, non, je trouve ça cool. Merci.
Bah après, mes questions, elles rejoignent, donc je vais vous les dire si jamais il y a autre chose qui sort, mais c'était comment on fait pour gérer les conséquences sur les proches, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à, ou pas à en parler, quelle place on donne aux amis proches dans le soin, dans quelle mesure on les laisse prendre soin ou pas, à quelles conditions, qu'est-ce qui aide et qu'est-ce qui dessert aussi.
Moi, je pense que sur qu'est-ce qui aide, ma conclusion, ça a été que bah, comme on le disait tout à l'heure, moi souvent parler me fait pas particulièrement du bien. Enfin, c'est important d'énoncer pour moi ma situation, mais j'arrive pas très facilement à creuser, ou enfin rarement quoi. Et par contre, ce qui m'aide, c'est de faire des choses avec les gens. Donc, d'aller faire des balades, d'aller faire du sport, faire des activités. Finalement, je réalise de plus en plus que, surtout dans les moments où je vais pas bien, d'une manière générale dans ma vie, mais surtout dans les moments où c'est un peu le début du trou noir, le truc qui m'aide, c'est ça. C'est les petites activités, quoi. Et ça peut paraître un peu enfantin, mais en fait, enfin, ouais, moi, mais n'importe quoi, hein, faire un puzzle, genre des trucs très simples, je réalise que c'est ça va me faire plus de bien, parce que je pense que ça me sort de ma tête un peu. Ça évite, ça casse un peu le monologue intérieur qui s'installe, toutes les pensées parasites, ça bloque un peu quand vraiment je suis hyper mal, le début d'alu, etc. Ça me focus en fait, et franchement, j'ai mis super longtemps à le comprendre, et maintenant que j'ai compris, je sais que voilà, c'est un des trucs qui est peut-être en plus finalement pas plus engageant qu'une conversation, quoi, mais moi ça va me faire du bien, et je vais pas forcément y arriver à le faire seule.
Ouais, je te rejoins beaucoup sur les activités, le sport, les activités minutieuses en fait qui concentrent vraiment ton attention, et effectivement le fait d'être aussi en groupe et de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Quand je vais pas bien, je passe énormément de temps à être avec mes amis et à me balader, et à faire des choses comme ça, et à discuter. Et au début, non, j'arrivais pas à vraiment en parler à mes amis du fait que ça allait pas, parce que, bah, surtout, j'arrivais pas à mettre un mot, il y avait pas forcément, enfin, souvent, les gens vont chercher une raison à pourquoi ça va pas, et en fait, il y en a pas, juste ça va pas, et, ou alors, il y en a une flopée, mais, du coup, c'est très frustrant aussi de pas pouvoir trouver soi-même les clés et expliquer ce qu'on ressent et ce qui va pas. Et en fait, c'est à force d'écouter mes propres amis me faire confiance là-dessus et me parler de leurs propres difficultés que je me suis dit, bah, en fait, je peux juste poser ça comme ça, que ça va pas, que j'ai telle angoisse, tel blocage, etc. Et puis, juste, ça existe quelque part. Et voilà, du coup, de plus en plus, j'arrive effectivement à leur laisser cette capacité. Alors parfois, bah, ça aide, parfois ça aide pas, parce que parfois, elles comprennent pas, et c'est encore plus frustrant. Mais généralement, rien que le fait de moi le mettre en mots, et de savoir que quelqu'un d'autre l'a reçu et le sait, bah, ça permet de plus être seule avec ça. Et ouais, du coup, ça fait partie des processus de soins. Du coup, je pense qu'on peut passer au dernier bloc, qui est le rapport à soi. Et donc, je voulais vous demander, qu'est-ce que prendre soin de soi en restant dans un engagement politique pour vous? Et j'entends par là, aussi avec justement toutes les lignées de critiques des institutions qu'on peut avoir et de la psychiatrie en général. Et comment est-ce que on s'en saisit politiquement tout en se préservant soi? Est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à faire? Est-ce que vous avez déjà un rapport politique aux soins? Est-ce que c'est quelque chose de politique pour vous ou pas du tout d'ailleurs?
Je veux bien essayer de dire des trucs. Alors, je trouve qu'il y a plusieurs choses. Il y a la question des idées et il y a la question de l'organisation collective. Enfin, dans engagement politique, j'entends un peu les deux. Et il y a des moments, en fait, il y a des moments où moi, je me suis dit, mais finalement, toutes ces lectures féministes, toutes ces lectures sur les violences, dans quelle mesure ça m'affecte en fait aussi, et dans quelle mesure ça m'aide à vivre ou pas en fait. Enfin, genre, ok, c'est un outil contre la culpabilité, ok, c'est un outil pour se sentir légitime à se défendre, etc. Mais en fait, est-ce que je suis en train de devenir parano à cause de tout ça, ou en tout cas, est-ce que ça me rend heureuse, je sais pas, c'est pas sûr. Donc il y a ça. Et en même temps, bon, j'ai pas envie de baisser les bras, j'ai pas envie de lâcher l'affaire, de me dire, ok, respire, ça va bien se passer. Enfin, je trouve que c'est insuffisant, comme, donc j'ai pas encore trouvé la juste distance par rapport au truc. Si ce n'est de, essayer de pas m'isoler, en fait, de parler avec des gens qui n'ont rien à voir et qui se préoccupent des oiseaux et qui, en fait, essayer de rencontrer des gens, parler d'autres choses, avoir une vie qui existe en dehors de ses préoccupations, même si elles restent tout le temps là et que, voilà, mais en tout cas, voilà, essayer de m'ouvrir un petit peu. Et après, il y a toute la force et toute la fragilité qu'il y a dans, des collectifs militants en autogestion, avec tout ce que ça, toute la magie de l'énergie incroyable que ça peut donner, et en même temps, comment ça peut péter au visage d'un jour à l'autre, et on se les traumas les uns sur les autres, les projections, les pires ruptures amicales de toute la vie, enfin vraiment des trucs où c'est, enfin, voilà, moi je me suis toujours beaucoup méfiée de l'amour, genre c'est dangereux, il faut pas se laisser prendre au piège et tout, nanana, mais je me suis pas méfiée en collectif militant, hein, combien ça peut me blesser aussi, combien ça peut me jeter au fond du gouffre de doutes sur qu'est-ce que j'ai mal fait ou je sais pas quoi. Donc je n'ai pas la réponse à la question. Là, je suis plus dans une phase un peu pessimiste de genre, je ferais mieux d'aller à la piscine qu'à la réunion. Mais j'ai quand même envie de croire que c'est possible de faire de l'engagement militant en prenant soin de soi et en prenant soin des autres, et que peut-être apprendre à faire ça, ça fait partie de la militance. Que de toute façon, ma dernière pensée, je vous livre cash le truc de hier au yoga. Genre, ça fait des années que je suis dans le truc, il y aura pas de paix, il y a pas de justice et tout. Et là, je suis en train d'inverser le truc de, en fait, on peut pas faire la justice en créant d'autres violences. Et donc, je suis en train d'inverser le machin. Au bout de 10 ans de, genre, je justifie l'usage de la violence dans mes trucs. Et là, je suis en train de revenir dans l'autre côté du balancier un peu. Je reviens en lecture bouddhiste de mes années, je sais pas, 2006, 2010, quoi. Genre, un espèce de retour, en tout cas, à mon échelle individuelle, limiter la casse, ça me paraît bien aussi comme stratégie. essayer de pas se défendre en attaquant, et en tout cas, de faire bien attention à pas utiliser les outils de l'autodéfense sur les personnes qui sont en fait à égalité, y a plein de choses qui sont légitimes quand on est dans un réel rapport de force, que c'est le patron, que en fait il y a des trucs très clairs. Il y a aussi les gens où bon, il y a des micro enjeux de pouvoir parce que c'est ça, mais en fait bon, en vrai on vit la même situation sociale, et de pas utiliser ces outils là de défense contre des gens qui sont de notre côté, en fait. Bon, alors, essayer de pas s'entretuer pendant que Darmanin fait la fête. Enfin, voilà, c'est un peu là où j'en suis. J'ai fini.
Moi, là-dessus, je pense que j'ai eu deux expériences un peu opposées. D'abord, dans le militantisme, on va dire, général, de gauche, moi, c'était et une expérience très chouette et une expérience un peu dure où j'ai ressenti le fait que entre le boulot plus les réunions militantes, en fait, je n'arrivais pas à suivre. Et je l'ai vécu vraiment comme un échec. Ce truc de pas réussir à trouver l'équilibre où je me disais, mais putain, mais t'es vraiment nul, quoi. T'arrives pas à suivre la cadence sur des bases en plus très, très ok. Hein. Enfin, on n'était pas sur un militantisme non plus qui englobait tout. Mais en fait, je n'y arrivais pas. Donc ça a été un des trucs, un moment où, bon, j'avais plein d'autres trucs dans ma vie, mais du coup, qui a été compliqué sur le rapport soins et structure politique. Et parce que pour moi, mais peut-être que du coup, on a un avis un petit peu décalé, mais pour moi, les groupes militants ne sont pas des groupes de soins. C'est pas des lieux où j'attends du soin. Moi, j'attends de la réflexion et des actions. J'attends pas que ça se fasse au détriment des personnes handicapées d'une manière générale ou des personnes, bref. Mais j'attends à ce que ce soit un lieu d'action. Et en même temps, j'ai aussi milité dans un groupe féministe. C'était la première fois que je militais de ma vie. Et dans ce cadre, on a organisé des groupes de parole avec des personnes concernées. Qui étaient victimes d'agressions sexuelles ou de viols, et où là pour moi ça a été des vrais groupes de soins. Et c'était pas pensé immédiatement comme ça, c'était pensé juste par franchement on trouve pas de structure, on sait pas comment faire, on n'a pas d'argent pour des psychologues, et on voit qu'on est concerné, donc on en parle entre nous. Et moi ça a été un truc hyper marquant dans ma vie. Ça m'a permis de détricoter énormément de choses autour de la honte, des traumas, de tout ce qu'on sait maintenant, mais qui à l'époque, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et du coup, je me dis que, enfin, maintenant, ma position, c'est les lieux de militantisme ne sont pas des lieux de soins, mais ils peuvent en organiser. Je sais pas s'ils doivent, mais en tout cas, ils peuvent. Et je le vois comme un peu un cercle, du coup, vertueux, quoi. Il y a la partie militance, qui est une partie dure, en vrai. Franchement, je trouve que c'est dur. Comme tu dis, on lit des trucs horribles, on entend des trucs horribles, on parle de trucs horribles, et ça bouge peu, d'une manière globale. Et de l'autre côté, ces groupes plus de, on prend du recul, on prend du temps pour nous. Et puis, le troisième pilier, pour moi, ça reste, le réseau amical. Et maintenant, j'apprends aussi au fait que, les militants sont pas mes amis. C'est pas grave. Parce que j'ai des amis, en fait, par ailleurs, avec qui je gère cette dimension, justement, plus de soins, etc. Et les militants sont des militantes. Et elles sont là pour le même objectif, mais elles sont pas là pour le soin collectif. Et par contre, ces groupes-là peuvent organiser des groupes de soins. Mais pour moi, c'est des cercles qui se recoupent, mais qui se... Comment dire? Où il n'y a pas l'un dans l'autre, ou enfin, ne se superposent pas, quoi. Juste, ils se recoupent parfois à certains endroits. Mais c'est rare, et c'est hyper précieux quand ça arrive. Mais en fait, c'est rare. Et peut-être c'est pas grave.
Merci beaucoup pour vos partages, parce que je me retrouve beaucoup dans tout ce que vous dites. Et je trouve ça intéressant, Claire, la distinction que tu fais entre militantisme et soins. Moi, je suis vraiment dans une démarche de beaucoup réfléchir à comment créer justement du soin militant. Mais par contre, c'est vrai que cette question de... prendre soin de soi en restant dans un engagement politique, elle est vraiment très complexe me concernant, parce que à la fois l'engagement politique, c'est ce qui me porte et c'est ce qui me fait vivre et c'est la raison d'être de mes actions, etc. Et à la fois, je me suis confrontée à mes propres limites et dues à mes troubles, et que c'est quelque chose que j'ai vécu très mal, effectivement, de pas pouvoir, comme tu dis, suivre les cadences à un moment. Et tout en essayant de me raisonner après en me disant, mais justement, c'est aussi anticapitaliste de pas suivre les cadences, de pas se remettre dans une autre forme de productivisme, etc. Mais j'ai encore du mal à accepter la perte de temps, entre guillemets, que provoque ma santé mentale. Et voilà, du coup, ça, c'est pour ça que j'essaye de le penser de manière effectivement collective aussi, où je pense qu'il y a beaucoup à jouer dans l'entraide pour se sortir de là. We must be strong. partage. Et ça m'amène du coup à ma dernière question, que j'ai découpée en trois parties, et je vais dire tout à la suite, comme on l'a sous les yeux. Quel rapport à la guérison entretenez-vous, si celle-ci a du sens pour vous? Ou bien vous inscrivez-vous essentiellement dans une démarche de vivre avec la fluctuation de vos troubles, des maladies, des enjeux de santé mentale? Et que répondre à celles qui continuent de nous dire que cela passera et que ce n'est qu'une phase? Voilà, est-ce que vous pensez guérir ou juste vous soigner?
Je pense que c'est une question très compliquée. Moi, j'ai beaucoup pensé que ce n'était qu'une phase. Vraiment, pendant 10 ans, je pense, je me suis dit, c'est une phase. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Il faut juste serrer un peu plus les dents. Il faut juste être plus cadré dans son quotidien. Et en fait, la première personne qui m'a dit ça va pas passer, c'est une psychiatre qui m'a dit, en fait, vous allez être comme ça toute votre vie. Et ça a été hyper dur. Et je l'ai, enfin, en apparence, je l'ai accepté. Dans le fond, je ne l'ai pas du tout accepté. Et j'espère encore. Il y a une petite voix, mais vraiment de plus en plus faible, mais qui me dit encore, non, non, mais ça va passer. Et sauf que bon. Je pense qu'il faut se rendre à l'évidence que ça ne va pas passer et qu'il faut apprendre à vivre avec. Et du coup, là, je suis un peu dans cette étape à me dire, il faut apprendre à vivre avec, d'où le fait d'en parler. Parce que du coup, si tu penses que ça va passer, t'en parles pas. Tu parles pas d'un truc fluctuant où le mois prochain, c'est terminé. Pourquoi s'exposer alors que c'est bon, ça va être terminé. Et pour le coup, je fais un parallèle, mais... Parce que, évidemment, quand tu me dis c'est une phase, ce que j'avais jamais formulé comme ça dans ma tête, enfin, moi je pense tout de suite à la sexualité, au rapport au genre, où t'entends beaucoup ça, enfin, t'entends beaucoup ça, de moins en moins, mais c'est quand même le truc du genre, ah, ouais, t'as un crush sur cette fille, non mais t'inquiète, c'est une phase, et c'est là, c'est une phase qui commence à durer quand même. et du coup, là, je pense que, enfin, le sous-texte, c'est celui-ci. Et du coup, c'est un peu bizarre, parce que d'un côté, je lutte contre d'une manière très ambivalente, ou d'un côté, j'ai encore une voix qui me dit, mais peut-être c'est une phase, et de l'autre, j'ai une autre qui me dit, non, mais en fait, tu es comme ça. Et accepte-toi, et aime-toi comme tu es. Et ça, c'est la phase d'après, quoi. Se dire, ok, je suis comme ça, mais je peux aussi, ce que tu disais, Eclo, bien aimer ma façon de fonctionner. Ne pas aimer les souffrances que ça m'apporte, et ça, essayer à tout prix de minimiser les souffrances, mais de voir aussi les bons côtés que ça m'apporte. Et ça, honnêtement, j'y suis pas du tout encore. Je suis encore au stade à me dire, bon ben, ce n'est pas une phase, manifestement c'est là pour rester, on s'organise autour. Mais j'en suis vraiment encore, je pense, au tout début de cette histoire. Et vous, du coup? Et toi, Juliette?
Du coup, c'était trop intéressant ce que t'as dit. Je me suis perdue. J'ai pas cherché la réponse à la question dans ma tête. ce qui me venait, c'est que moi, j'ai l'impression que je pars d'un truc, enfin, globalement, mon truc de base du réel, c'était, on est tous bi, on est tous fous, on est tous, enfin, voilà, que, en fait, chaque partie de tout est à l'intérieur de tout le monde et que, voilà, après, ben, il y a quand même une réalité des expériences de vie de chacun qui sont différentes et qu'il faut prendre en compte. Mais du coup, j'ai du mal à savoir si c'est une part de... Je pense que c'est une part de déni qui me protège. Mais moi, j'ai quand même l'impression que j'aspire à des périodes de vie où les troubles seraient beaucoup moins présents qu'ils ne sont aujourd'hui. Et je crois que ça peut arriver. Enfin, je crois que ça peut arriver. Même s'il y a aussi des jours où je me dis, en fait, tout est déjà là, il faut déjà célébrer tout ce qui est bien maintenant, et j'essaie beaucoup de cultiver ça. Après, je vois que je suis aussi un peu tout le temps quand même en train de me préparer au pire, en train de préparer le terrain, de quand est-ce que ça va dégénérer. Et je vois que cette anxiété-là, elle est pas aidante. Enfin, en tout cas, moi, elle m'aide pas trop. Après, là, du coup, la semaine dernière, j'ai lu un bouquin, du coup, d'une meuf qui dit qu'elle est bipolaire, donc elle a reçu ce diagnostic, qui est déjà âgée, donc elle a eu le temps de regarder sa vie en entier, enfin, genre, pas en entier, mais une grande partie, et qui dit que pour elle, en fait, la guérison, c'est de... Ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est de... Bah, qu'en fait, elle a appris à aimer la puissance que ça lui donne dans sa sensibilité, dans son rapport aux autres, dans... et que en fait et elle a revendiqué comme une guérison et que finalement la maladie ce serait le fait de pas accepter cette part d'elle-même voilà donc je trouve que ça fait plein d'échos avec ce que t'as dit et du coup j'ai l'impression que en tout cas moi mon horizon ce serait que les manifestations physiques enfin en fait que les souffrances qui se manifestent dans le corps elles soient significativement amoindri quoi. Enfin, c'est ça mon objectif, c'est de plus avoir de gêne corporel qui m'empêche de vivre la vie que j'ai envie de vivre quoi. Je pense que c'est vraiment ça. Et ça, bah ça peut passer par des médicaments, ou ça peut passer par, je sais pas, je vais commencer à faire du cirque et tout à coup je vais enfin je vois là, je me dis que ça peut passer par plein de chemins. Voilà.
Moi, je me retrouve beaucoup dans tout ce que vous dites. Moi aussi, au début, j'espérais que ça passe. Et puis après, très vite, je me suis dit, non, ça se guérit pas, mais ça va se soigner et je vais apprendre à vivre avec, effectivement. Et après, effectivement, j'essaye aussi de célébrer, du coup, de garder l'aspect, ok, j'ai une aura atypique, mais elle me permet de fonctionner bien sur tout un tas de plans. Et après, il y a aussi des troubles qui sont liés ou non à cette neuroatypie. Et là-dessus, j'essaye de justement en soigner les symptômes et aussi d'essayer d'identifier des éléments déclencheurs pour m'en préserver. Mais je pars du principe que ça va me suivre toute ma vie et qu'il faut effectivement que j'apprenne à en parler et que j'apprenne à me soigner. Après, j'espère que, par contre, j'aurai pas toujours besoin des médicaments pour ça ou pas toujours... Peut-être pouvoir diminuer les doses à terme. Je me dis aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées au manque de stabilité dans ma vie, qui exacerbent ces troubles-là, et que quand ça se sera déjà un peu réglé, j'aurai plus d'outils pour aller mieux, sans que ce soit parfait. Mais je pense qu'il y a aussi des éléments extérieurs qui nous pousse au-delà des maladies, etc., à aller mal. Donc, merci beaucoup pour vos réponses.
Ouais, peut-être juste pour compléter ce que vous avez dit là-dessus. Et par rapport à la citation que... Enfin, ce que tu disais, Juliette, là, du bouquin. Je pense qu'en fait, il faut distinguer dans les troubles ce qui nous fait souffrir et ce qui nous fait pas souffrir. Et moi, il y a des troubles qui me font pas souffrir. Peut-être ça me rend... Enfin, peut-être dans les relations aux autres, ça fait un petit truc un peu bizarre. Mais en fait, c'est un petit inconfort pour mon interlocuteur ou interlocutrice. Et pour moi, en fait, moi, je le vis bien. Et ça, j'ai pas particulièrement envie d'en guérir. Enfin, j'ai pas envie que ça parte. Ça, bah, c'est ce qui, pour moi, rentre même plus dans de la personnalité que dans des troubles. Et à l'inverse, il y a des troubles qui me font souffrir. Et là, du coup, je rejoins ce que vous dites. Ça, en revanche, c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de travailler et que j'ai envie de voir partir. Mais j'ai mis longtemps à faire cette distinction entre, les diagnostics qui, du coup, font un peu, genre, chapeau. Et à l'intérieur, il y a des troubles qui, en fait, qui ne sont pas graves, qui sont des petits désagréments ou des petits trucs en plus, et qui, bah oui, ok, nous rangent peut-être, si on passe un questionnaire du côté plus folie de la force, mais en fait, c'est pas grave, ça n'apporte aucun problème, dans mon quotidien en tout cas. Ça m'empêche pas de vivre la vie que j'ai envie de vivre, voire même, ça me pousse vers la vie que j'ai envie de vivre. Et je pense que là-dessus, il faut se faire confiance. Et je pense que plus on avance, plus on se connaît, et plus on sait les trucs qui doivent dégager, et ou en tout cas on essaye de faire en sorte de les minimiser, et les trucs qui en fait font qu'on s'aime, quoi, qui font qu'en fait bah c'est notre personnalité et c'est nous. Et en fait ça, par contre, oui, il faut pas que ça parte, parce qu'en fait ça fait partie de nous. Et je fais cette distinction qui est peut-être un peu, comment dire, un peu artificielle, mais en tout cas moi dans le ressenti, je trouve qu'elle est, enfin qu'elle est vraiment présente. They can't comprehend, or even come close to understanding him. I guess if I was born, they would love me more. Guess if I was simple in the mind, everything would be fine. Maybe if I was a jerk to girls, instead of being nice and speaking kind words, then maybe it would be okay to say then I wasn't a good guy to begin with. But my mind is all crazy, crazy, crazy. They got me thinking I ain't human, like I came here from above, 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 above. Feeling like an airplane in the sky, but then they say I'm crazy, 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 crazy. They got me thinking I ain't human, like I came here from above, 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 above. Feeling like a bird sitting high, high. Et moi, ma question par rapport à ça, et qu'on a commencé un tout petit peu à évoquer avec bah, l'idée du cirque, mais c'est... pour vous, comment dire, comment vous abordez les pratiques dites artistiques? Du coup, je mets le cirque dedans parce que, bah, pour moi, c'est une pratique artistique. Je sais pas comment toi tu la vis, Juliette, mais et parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup abordé les pratiques artistiques sous le prisme de la guérison, justement, et ce qui est pas ce que moi, je ressens. Mais du coup, je voulais savoir ce que vous, vous ressentez. Et est-ce que pour vous, enfin, est-ce que ces pratiques artistiques sont importantes dans vos vies? Et quel lien vous faites avec une éventuelle guérison? Ou en tout cas, un mieux-être et ces pratiques?
Bah, pour ma part, oui, moi, elles sont très présentes. Après... Non, je les vis pas forcément comme quelque chose qui guérit, mais par contre qui fait du bien sur le moment et qui me permet d'être un endroit de libération, oui. Que ça soit par la performance, enfin tout ce qui est sur scénique, ou par l'absorption que me procure le fait de dessiner ou de peindre ou de faire des choses comme ça, ou d'écrire, c'est des moments où justement aussi j'aime mes dysfonctionnements aussi parce que ils me poussent dans des endroits ouais assez chouettes et complètement imaginaires, etc. Mais en même temps ça peut être aussi une grande source de frustration parce que là par exemple ça fait plusieurs mois que je me semaine mois que je me retrouve un peu bloquée dans mes pratiques artistiques, notamment sur le dessin où j'arrive plus du tout à dessiner. Et alors que c'était genre justement l'activité qui me faisait le plus grand bien de base, et ça me frustre énormément, et j'ai l'impression du coup que ça me renvoie encore plus à mes propres incapacités, à mes propres paralysies, à l'angoisse, et ça devient un nouveau défi en plus quotidien, tous ceux auxquels je fais déjà face. Et donc je dirais que ouais, c'est assez ambigu, à la fois c'est... Quand ça arrive à s'exprimer, c'est des moments cathartiques. Et après, pour moi aussi, l'artistique est toujours très lié au politique. Donc, c'est pour ça que je relie aussi le politique à ça. Toutes mes pratiques artistiques ont des formes d'engagement militant, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, j'ai l'impression d'arriver vraiment à dire des choses et à justement sortir de moi-même et de ma personne avec toutes ces petites béquilles et d'être vraiment une personne qui prend la parole et qui dit des choses et d'être vraiment moi-même et d'être, ouais, cet être en dehors d'un corps et d'une psyché un peu bancale parfois. Et en même temps, bah, quand ça marche pas, bah, ça me renvoie effectivement à ces incapacités-là. Et du coup, ça fait un obstacle en plus très compliqué et que je vis encore plus mal. Et je fais beaucoup de complexes d'infériorité parce que je me dis, ah, mais tout le monde arrive à créer des choses et j'y arrive plus. Et en fait, je fais le syndrome de l'imposterisme et genre, voilà, truc de légitimité, tout ça, tout ça.
Je trouve la question super. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'autoriser à penser que je pouvais créer des choses et faire des trucs artistiques. Enfin, je crois qu'il y a à la fois des trucs de classe et aussi juste, de toute façon, j'étais en mode survie pour réussir ces études, pour sur... enfin voilà. Donc, ça m'a pris vraiment de temps et aussi de dédier de l'argent pour apprendre des trucs et tout. Et finalement, je suis arrivée à la photo et c'était c'était vraiment un média à ce moment-là qui me convenait dans le sens où genre je peux me cacher derrière l'appareil et il y a un truc de et tout de suite les photos ce qui est sorti c'est des choses qui parlent de mon état intérieur, enfin des trucs de flou, des trucs de on comprend pas trop et c'est ce qui est... enfin genre je voyais que ce qui m'intéresse comme image c'était des images qui parlent de ça quoi. Et après j'ai fait plein d'argentiques et j'ai trop aimé le côté artisanal et genre, la révélation de voilà. Et ça m'a quand même permis de, je pense que moi ça m'a permis de dire des trucs, enfin en tout cas d'exprimer, je sais pas si les dire, mais d'exprimer des choses pour lesquelles j'avais pas les mots. Et notamment j'ai fait un espèce d'album où, et je savais pas que j'étais en train de le faire au moment où j'étais en train de le faire, mais c'était c'était des photos qui parlaient de mon rapport à mon frère et de sa folie, ma folie, et de une phrase qu'il a pu dire de c'est qui de toi ou de moi finalement qui a vécu des violences sexuelles dans son enfance ou je sais pas quoi, enfin des espèces de renvois comme ça, des effets miroirs, on ne sait plus qui est qui et comment se transmettent les troubles et de on ne sait pas, les d'identité confuse quoi. Et donc je pense que c'est des choses que j'aurais pas trouvé le chemin d'expression en dehors de la photo. Donc en ça, je pense qu'il y avait un côté thérapeutique. Enfin, en tout cas, une mise à distance, quoi. Ça passe par un média. Et là, je sens que j'étouffe dans ma pratique de yoga. Je casse tous mes codes. À chaque fois que j'improvise un cours de yoga, c'est un cours de danse. Je sens que j'ai besoin d'avoir des outils, plus d'expression corporelle, des théâtres. Et genre que j'ai envie d'apprendre à dire des trucs avec mon corps, quoi. Voilà, j'en suis là. De sentir que peut-être c'est un chemin qui pourra me permettre, en tout cas, de décharger, quoi. Voilà. Et toi ?
Moi, j'ai mis longtemps à retrouver une pratique artistique. J'écrivais beaucoup enfant. J'ai complètement arrêté pendant mes études et pendant le début de ma vie professionnelle. Et c'est revenu progressivement. Et un des trucs, c'est que ça me faisait pas du bien. Et je voyais partout des gens qui disaient « Ouais, c'est trop bien d'écrire, on se retrouve avec soi-même et tout. » Et moi, vraiment, ça me faisait... pas du bien. Et j'ai mis longtemps à comprendre qu'en fait c'était pas grave, que je cherchais pas ça là-dedans finalement. Et que je cherchais le fait de raconter des histoires, le fait d'explorer des thèmes, mais pas particulièrement d'aller bien. Et que en revanche je pouvais aller bien via d'autres trucs, type le sport, des activités hyper focus, type je sais pas, le tricot, enfin voilà, d'autres trucs quoi. Mais je réalisais que ce truc-là me faisait pas aller bien et que c'était pas grave. Mais voilà, j'ai mis longtemps à décortiquer les deux, c'est pour ça que je posais la question comme ça. Et qu'en fait, j'avais le droit de pas faire que des trucs dans le but d'aller bien. Je pouvais juste faire des trucs parce que j'y trouvais une forme de plaisir et que j'aimais bien le rendu et que j'aimais bien cet exercice, quoi. Donc voilà, c'était un peu ça, moi, mes réflexions, questions. Et je me demandais un peu comment est-ce qu'on peut avoir une pratique artistique qui nous fait du bien. Et du coup, je comprends, ouais, ce truc du rapport au corps, du rapport au focus aussi très précis. Et ça, en vous écoutant parler, je réalise que ouais, je le retrouve dans d'autres aspects en fait de ma vie finalement, enfin de, je sais pas, de mes activités. Say.
deux dernières questions. Après, peut-être que chacun une peut prendre ce qu'il veut. Du coup, ma question, c'était un peu, premièrement, sur la psychophobie intériorisée, c'est-à-dire que moi, j'ai un regard de mépris, de méfiance envers moi-même qui est assez poussé. Donc, je ne sais pas comment vous faites avec ça, si vous l'avez aussi. Et la deuxième, c'est un peu peut-être genre une recommandation d'un truc que vous avez aimé, qui vous a aidé, un livre, voilà, une recommandation un peu culturelle de choses qui peuvent faire support à approfondir la réflexion ou discuter avec les proches.
Ben, moi, sur la psychophobie intériorisée, ouais, genre, comme je disais, je flagelle beaucoup de ne pas arriver à faire les trucs et du coup, c'est vraiment très compliqué. J'ai pas encore trouvé comment sortir de ça. À part essayer d'en parler et écouter les autres personnes autour de moi qui me disent de lâcher prise là-dessus et d'essayer de faire quand même de ces moments où ça va pas bien, bah des moments de création autre, que ça soit de lien avec les autres, de dialogue, de confiance, etc. De faire de balades, enfin, genre j'essaye de quand même meubler ce temps-là. Et en termes de recommandations, je recommanderais la BD Goupil ou Face sur la cyclothymie. Aussi bah justement je pense que ton podcast fait référence à ce livre C'est comme ça que je disparais de Myriam Mann sur la dépression et après le tout ce qui est enzine zinzinzine et aussi les œuvres d'art et dessins et le conte Les Folies Passagères que j'aime beaucoup et qui fait beaucoup de bien avec des témoignages et il y a un livre aussi qui est sorti voilà.
Moi peut-être sur les recommandations il y a un podcast que j'écoute pas mal qui s'appelle Disorderland qui est en anglais et qui est vraiment super sur la question des troubles mentaux et sous un angle très politique et très antiraciste et voilà, ça m'a beaucoup apporté. Et après sinon il y a une blogueuse qui s'appelle Cléa Ciel qui a beaucoup écrit aussi sur le rapport à l'institution psychiatrique. Moi j'ai beaucoup appris en la lisant. Et elle fait des trucs vraiment chouettes. Elle fait aussi des collages qui sont super beaux. Et un autre blog, malheureusement la personne est décédée, mais c'est le blog de Mel Bags qui a écrit sur l'autisme. Pareil, c'est en anglais. Elle a beaucoup écrit sur le rapport au langage. Et moi, ça m'a complètement bouleversée. Enfin, ça a vraiment changé ma conception de des troubles, de ce qu'on appelait folie, etc. Donc voilà, ce sont mes trois recos.
Moi, le dernier truc que j'ai lu qui m'a particulièrement touchée, c'est un bouquin de Gloria Anzaldúa qui s'appelle Borderlands. Je redirai le titre dans dans l'article, mais sur le sujet de souffrance psychique, elle parle de comment elle a apprivoisé ses hallucinations et que du coup elle a ritualisé le fait d'être à leur écoute et de les transformer en images, en poésie, et qui en fait parce que c'est connecté à une dimension spirituelle pour elle et qu'elle arrive à fabriquer du sens avec, que bah elle les a apprivoisés comme sienne et comme une force quoi, et j'ai trouvé ça assez puissant. Et du coup je vais quand même prendre le temps de se dire au revoir et merci, et franchement je suis super touchée par ce moment et vraiment c'était trop chouette, donc j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai à un moment, et merci pour cette matinée.
Ouais.
Merci
beaucoup, merci de l'invitation et ouais c'était vraiment très très chouette de parler avec vous, c'était trop cool.
Chouette. Belle journée alors.
Merci, à vous aussi. Salut.
Bye. It was one of the worst performances I've seen in my life. I couldn't sleep last night because I felt this shit. My calling is right on time. Transformation, I must had 1,000 lives and like 3,000 wives. You should know that I'm slightly off fighting off demons that been outside. Better known as myself, I'm a demigod. Every thought is creative, sometimes I'm afraid of my open mind. Shit on my mind and it's heavy. Tear you in pieces cause it's way too heavy. My diamonds, the joker is heavy. More life to give on the men, are you ready? Who keep them honest like us? Who in alignment like
Et voilà, c'est la fin de cet épisode crossover sur la santé mentale. J'espère que celui-ci vous aura intéressé. Je retire plusieurs choses, notamment la lecture des oppressions systémiques qui peuvent nous fournir des armes pour manœuvrer face aux institutions psychiatriques. L'importance de l'autodétermination aussi, sur laquelle nous reviendrons dans un prochain épisode. Et de l'auto-orientation dans les parcours, mais du problème de manque d'informations qu'on a, ce qui nous oblige à piocher un peu ce qu'on peut dans l'institution psychiatrique et nous pousse à entretenir un rapport ambivalent à celle-ci. De ces échanges, avec Claire et avec Juliette, je retire aussi l'idée de s'interroger quand on va bien sur ce dont on a besoin quand on ne va pas bien, de parler avec des amis de confiance pour avoir des regards tierces, et également sur le rapport de responsabilise de soi et là où on ose demander de l'aide. Ah, et vous avez peut-être reconnu dans les transitions musicales le générique de Shira. C'est une suggestion de Juliette et je vous lis sa petite explication. Je cite « C'est le dessin animé le plus queer que je connaisse. » Entre parenthèses, les personnages sont merveilleux et que les X saisons finissent par un baiser lesbien. Mais aussi parce que c'est vraiment une esthétique des gentils contre les méchants. Ça me rappelle que la culture dominante est basée sur cette binarité et d'arrêter de me croire du bon côté. Mais bon, je sais pas si à l'écoute on peut capter cette ironie sans avoir le contexte. » Fin de citation. Donc voilà le contexte. Je vous recommande vivement Shira. De prochains épisodes sur le même sujet suivront. Je ne sais pas exactement quand. Je vous souhaite une belle semaine et de bonnes vacances pour celles qui en ont. Et je vous dis à très vite sur Rebord des Corps.
Le soin de votre corps, c'est le seul endroit
où vous êtes forcé de vivre.
¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? Oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer por eso?
Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha.
Dans un corps sain.
Au bord des corps.